IDFM Radio Anguin 98 de la Mande FM, bonjour à toutes et à tous, émission Retour aux sources. Aujourd'hui avec David de Goulois, il est ésotériste et formateur, il est co-créateur du site sagesseancienne.com. Nous allons parler aujourd'hui d'Elena Blavatsky, dit HPB, une grande occultiste russe de la fin du 19e siècle qui a cofondé la société théosophique et a posé les bases de l'ésotérisme moderne. David Goulois, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, bonjour Joël, bonjour à tous.
Bon, on est tous là donc pour ce retour aux sources. Alors, David Goulois, est-ce que vous pouvez vous présenter un moment pour nous dire pourquoi vous venez parler aussi d'Elena Blavatsky ?
Alors, vous avez déjà dit beaucoup, en fait. Moi, je suis ésotériste. Je suis d'abord psychomotricien de formation, mais depuis plusieurs années, je travaille dans le domaine de l'ésotérisme. J'ai beaucoup étudié et j'ai maintenant créé un site avec ma femme, www.sagesseancienne.com. C'est, comme son nom l'indique, un site qui se dédie à la sagesse ancienne. La sagesse ancienne, c'est les enseignements ésotériques d'une origine très éloignée, et il y a dedans donc des articles, des extraits de radio, il y a un livre et des futurs livres que je vais publier, bien sûr. Il y a beaucoup de choses sur la que l'on met gratuitement à disposition, et puis il y a aussi bien sûr la présentation de nos activités, des formations sur les 7 rayons. On va en parler un petit peu avec Madame Blavatsky sur l'astrologie ésotérique, l'énergétique. J'enseigne moi et pratique depuis mon adolescence, la méditation, donc voilà, c'est un petit peu les données essentielles de mon travail. Et je me suis donc beaucoup intéressé aux enseignements de Madame Blavatsky,
donc
et
sur
également
le
de ses successeurs.
Donc sur le site Sagesse Ancienne, il y a un article, je crois, de vous.
Voilà, qui est libre d'accès, qui s'appelle « La réhabilitation d'HPB ».
D'HPB et qui se trouve...
C'est dans la rubrique articles, il y a des articles que je mets à disposition. Alors, bien sûr, les droits sont protégés, mais je les mets à disposition pour que les gens puissent s'informer, découvrir ce qu'est la sagesse ancienne. Il y a beaucoup d'articles très divers, et il y a celui-ci que j'avais écrit il y a plusieurs années. C'est un des premiers articles, d'ailleurs, que j'avais écrit, parce que je me rendais compte que Madame Blavatsky était encore sous le joug de rumeurs, de calomnies. Elle était encore assez mal connue, et je regrette même en France le fait que certains ésotérologues, donc ce sont des historiens qui étudient maintenant l'ésotérisme, continuent encore de faire circuler des rumeurs, des choses qui sont pourtant infondées sur Madame Blavatsky. Donc malheureusement, elle jouit, pas partout bien sûr, fort heureusement, mais elle jouit encore d'une mauvaise réputation. Et on va en parler un petit peu. Il y a une sorte de cabale qui s'est, à l'époque, il y a plus d'un siècle de cela, qui a été montée contre elle, et elle a été beaucoup salie. Mais fort heureusement, la valeur de quelqu'un, la grandeur des idées finit toujours par l'emporter. Et je pense que au fur et à mesure, on commence de plus en plus à vraiment apprécier. Je ne parle pas seulement le personnage, on peut ne pas toujours apprécier certains personnages, mais il faut savoir faire abstraction de la dimension humaine.
Allô ? Je crois qu'on a perdu... Allô ? Je pense qu'on a perdu David. Alors David, je suis un peu ennuyée parce que j'ai... Bon. David n'est pas là, donc on va essayer de... Je vais le rappeler, on a un problème de... On a simplement un problème. Alors, j'ai rien de prêt, bien sûr, comme d'habitude. Donc, je suis bien embêtée. Donc, on a un problème avec David. On a un problème avec le téléphone, il semblerait. Et j'essaye de vous trouver de la musique pour faire patienter. Et comme je suis seule, c'est pas tellement facile. Donc je vais vous remettre l'indicatif. Voilà, je suis toute seule, ça, j'ai rien qui marche. J'ai pas d'indicatif, donc je vous cherche l'indicatif.
Allô ?
Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est revenu.
Mais moi, je t'ai toujours entendu, sauf là, ça s'est coupé.
Tu réponds pas, Joël.
On est à l'antenne ?
Oui, sauf que moi, j'entendais rien du tout.
Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais...
J'aimerais bien que tu répètes depuis à peu près 3-4 minutes, oui, parce qu'il n'y avait plus rien qui passait dans mon casque.
Donc, j'avais écrit cet article à l'époque, dans un souci donc de réhabiliter Blavatsky. Alors, bien, auprès de nombreuses personnes, ce n'est pas nécessaire, mais auprès d'une autre partie de la population, quand ils entendent parfois le mot de Blavatsky, ils associent cette grande ésotériste à un imposteur, à quelqu'un qui aurait trompé son monde, etc. Et en fait, je voulais, suite à une excellente biographie que je recommande.
Alors, c'est laquelle sur Blavatsky?
Oui, alors en français, elle s'appelle Elena Blavatsky ou La réponse du Sphinx. C'est un historien qui s'appelle Noël Richard Nafar. Donc, je répète, Elena Blavatsky ou La réponse du Sphinx de Noël Richard Nafar. C'est paru en 91 aux éditions François de Villac. C'est un très gros ouvrage très documenté, et à la suite de cet ouvrage et d'un autre aussi dont je me suis inspiré, HPB, The Extraordinary and Influence of Elena Blavatsky de Sylvia Cranston. Donc ça, c'est pour ceux qui lisent l'anglais. C'est deux biographies vraiment très très bien, très très documentées, et puis bien sûr d'autres choses sur Madame Blavatsky, mais je voulais aussi faire ressortir les idées clés, parce que Madame Blavatsky, c'est selon moi la pionnière de ce que j'appelle l'ésotérisme moderne. Alors, qu'est-ce que c'est l'ésotérisme moderne? C'est un nouveau pan de révélation. Un nouveau pan de révélation. Pour l'instant, l'ésotérisme, c'était essentiellement basé sur des traditions très anciennes. En Occident, c'était fondé sur l'hermétisme, donc d'origine égyptienne, et après des textes traduits en grec. On avait le néoplatonisme, et c'était d'ailleurs des gens qui s'appelaient théosophes. On avait les gnostiques chrétiens, on avait la Kabbale, on avait donc le pythagorisme, on avait après le soufisme aussi. Enfin, on avait des traditions soit d'origine religieuse, soit d'origine philosophique. Et puis, bien sûr, après les alchimistes. Mais voilà, c'était l'ésotérisme ancien, si on peut dire. Et Madame Blavatsky a été la première à faire une synthèse.
Ben, on peut déjà peut-être rappeler qu'elle était russe quand même, qu'elle est née le 30 juillet 1831, aujourd'hui dans une ville qui est située en Ukraine maintenant, et qu'elle est morte le 8 mai 91, donc à 60 ans à Londres. Pour la situer un peu, donc elle a vécu sur le 19e siècle. Hein.
Voilà, enfin, et elle va... à partir de 1875, crée la fameuse Société théosophique. Jusqu'à sa mort en 1891, elle va diriger cette Société théosophique et elle va publier beaucoup d'ouvrages, mais deux ouvrages clés, Isis dévoilée en 1877 et La doctrine secrète en 1888, qui est une sorte de... c'est la poursuite de Isis dévoilée, ou on pourrait dire qu'Isis dévoilée est une introduction à la doctrine secrète, qui est une sorte, on pourrait dire, d'encyclopédie. Moi, je considère que la doctrine secrète est une forme d'encyclopédie de l'ésotérisme. Alors, il faut quand même se replacer dans le contexte. Au 19e siècle, la philologie et toutes les études comparées, la mythologie comparée, etc., va simplement commencer à naître, et elle fait un travail monumental. On trouve dans la doctrine secrète des citations, des extraits venant de toutes les traditions du monde entier. Ça va du Popol Vuh pour les Amérindiens, au chinois, les Védas bien sûr, le Pimandre, des textes hermétiques, des extraits de livres gnostiques, de Valentin, de gnose chrétienne, donc de tout, vraiment toutes les traditions de Kabbale, beaucoup sur l'hindouisme, c'est vrai. Et donc Madame Blavatsky était quelqu'un de très instruit, mais pas seulement instruit, c'est-à-dire c'est pas seulement quelqu'un qui va simplement écrire en fonction de ses connaissances personnelles. Et les gens étaient assez surpris d'ailleurs de voir que lorsqu'elle écrivait, elle possédait très peu de livres.
Alors, il faut dire quand même qu'elle était la fille d'un colonel, le baron Peter von A, officier germano-balte. Elle était aussi la fille d'une romancière, Elena Andreevna de Faldelev, et que quand sa mère est morte, quand elle avait 11 ans, elle a été confiée à son grand-père, et que très très tôt, elle a quand même touché des ouvrages de franc-maçonnerie, de sciences occultes, et qu'elle avait une gouvernante anglaise, une autre française, si faite qu'elle parle donc russe, allemand, français et anglais. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et que son père lui a payé beaucoup de voyages à partir de 1848. Elle est partie, elle a rencontré des sorciers, des rebouteux, des chamans de Mongolie.
Oui, tout, oui.
Donc, elle a passé sa vie à voyager, cette femme. Hein.
Alors, elle a fait 3 fois le tour du monde. Alors, avant ça, elle quitte son époux, qui est de 22 ans son aîné. Elle ne consommera pas, elle repousse ses avances, et à 18 ans, elle s'enfuit, en fait. Hein. Et donc, d'où le nom de Blavatsky, qui vient de cet homme. Hein, le nom, et elle se fera appeler d'ailleurs HPB, ses 3 initiale, Elena Petrovna Blavatsky.
Et son mari s'appelait Nicéphor, voilà. Vasilievitch Blavatsky, fallait le dire quand même.
Nicéphor. Et donc elle fait 3 fois le tour du monde et elle va fréquenter beaucoup de cercles ésotériques. Elle va fréquenter des Incas en Amérique, des Druzes au Liban, en Inde, au Tibet. Alors par exemple, les attaques contre Madame Blavatsky repose sur des oui-dire. On dit qu'elle ne va pas arriver en Inde avant 1878. Et c'est faux parce qu'on apprend dans la biographie que je cite qu'il y a un capitaine Murray à Darjeeling qui, dès 1856, l'empêche de passer la frontière pour aller au Tibet. Donc on voit qu'elle est déjà en voyage. Alors il y a des récits de voyage parce qu'il y a des lettres. Enfin, il y a des preuves historiques qui montrent que oui, elle a vraiment voyagé et qu'elle a vraiment et qu'elle est allée au Tibet, être notamment entraînée par plusieurs des maîtres de sagesse. Alors ça, c'est une idée clé de Madame Blavatsky, c'est une idée maîtresse. L'idée, et on en parlera peut-être après en deuxième partie d'émission, l'idée qu'il existe une fraternité, une hiérarchie de maîtres de sagesse. Mais elle va donc beaucoup voyager. Elle fréquente beaucoup ces groupes-là, elle est souvent introduite et aidée par plusieurs de ses maîtres. Il y a un maître en Égypte qui va beaucoup l'aider, un maître grec, deux maîtres indiens, Maurya et Kutumi, un maître tibétain, Chwalkul, que les ésotéristes connaissent. Elle a gardé aussi des contacts avec le comte de Saint-Germain, parce que Madame Blavatsky, dans une vie précédente, on peut lire ça dans les ouvrages d'Alice Bellet, c'est une autre ésotériste qui va beaucoup s'appuyer sur les enseignements de Madame Blavatsky, et qui écrit elle aussi sous la dictée de l'un des maîtres de sagesse, le maître Chwalkul. Révèle l'information selon laquelle Madame Blavatsky a été auparavant le comte de Cagliostro. Cagliostro, c'était un franc-maçon qui a voulu ramener la franc-maçonnerie à ses sources égyptiennes. Et d'ailleurs, on fait souvent beaucoup de points communs parce que tous les deux étaient... D'ailleurs, ils se ressemblaient même physiquement, même si Madame Blavatsky était une femme, et ils faisaient montre de pouvoir occulte. Et ça, on a ça dès l'enfance de Madame Blavatsky. On a des phénomènes comme les poltergeists, hein, les phénomènes de choses qui bougent, qui sont projetées, il y a des bruits. Alors elle voit la vie des gens et elle annonce parfois des choses, la mort d'un tel ou ce qui va arriver à un tel. Et bien sûr, ça se vérifie, elle communique avec l'âme des morts. Enfin, en fait, on pourrait dire d'une certaine manière, elle vit des facultés psychiques qu'elle qualifiera après d'inférieures, de médiumniques. Et elle va, au fur et à mesure de sa vie, durant ses 20 ans, grosso modo, de voyage, hein, un peu plus de 20 ans d'ailleurs, elle va apprendre à les maîtriser et elle va être entraînée. Elle appelle ça le Raja Yoga. C'est la voie de méditation royale. C'est pas du tout une voie de méditation dévotionnelle, c'est une voie de méditation mentale qui apprend à se centrer dans sa nature spirituelle, dans ses centres supérieurs de la tête, et qui apprend donc à créer un lien entre sa nature divine et les fameux centres qui se situent dans la tête. Et elle est entraînée, en fait, beaucoup, et elle va faire la différence avec toutes ces facultés psychiques qu'elle avait jeune et avec le réel contact qu'elle va entretenir avec ses différents maîtres. Alors, elle rencontre son maître en 1851, elle a 20 ans, c'est à Hyde Park. Et elle raconte ça parce qu'elle vit vers la fin de sa vie avec une comtesse, d'origine suédoise, si je me souviens bien, Weschmeister, je ne sais pas si je le prononce bien. Et donc elle écrit ça qu'à 20 ans, elle rencontre celui qu'elle avait en vision depuis sa tendre enfance.
Elle l'avait rêvé.
Voilà, elle l'a rêvé plusieurs fois. Et en fait, ce maître, c'est le maître Maurya, c'est un maître d'origine indienne, un prince Rajput, qui l'a sauvée, parce qu'elle était très très téméraire, hein, petite, de nombreux accidents, un accident de cheval, où elle aurait dû normalement y laisser sa vie, parce que quand vous êtes pris le pied dans une sangle et traîné par un cheval, bah, c'est, si vous reste plus qu'une chose, c'est prier le bon Dieu ou alors faire en sorte que le cheval s'arrête ou que la corde casse. Mais en fait, voilà, elle a été comme soulevée de terre et protégée. Elle fait une grave chute petite quand elle veut justement aller fouiller dans la bibliothèque de la famille. Elle fait une grande chute et elle tombe délicatement. Enfin voilà, elle a eu plusieurs fois des aides de ce maître. Et donc, elle est toute heureuse de le rencontrer à l'âge de 20 ans dans le parc. Et le maître Moria, alors le maître Moria, il existe vraiment, hein, parce que en 1851, c'est l'exposition universelle qui se tient à Londres. Hein. Donc, il y a une délégation qui accompagne le représentant, le prince, je ne sais pas comment on dit, du Népal. Et le maître Moria fait partie de cette délégation, donc il est pris en photo. Donc, il y a des articles même sur lui, parce qu'il est très grand, il est majestueux. Et en plus, il refuse de rencontrer la reine d'Angleterre, alors que, bien sûr, tout le monde, à cette époque, voulait rencontrer la reine. Donc, il est un peu mystérieux, ce personnage. Donc, il y a des traces de ce maître Moria. Et elle le rencontre, et il va lui annoncer un peu la mission, on pourrait dire le travail, hein, qu'il attend d'elle, c'est-à-dire ce fameux travail pour faire connaître, révéler ce qu'elle va appeler, elle, la doctrine secrète, c'est-à-dire un corpus d'enseignement ésotérique qui sous-tend toutes les traditions religieuses, philosophiques et même les sciences. Toutes les découvertes scientifiques reposent sur cette fameuse doctrine secrète qu'elle va aussi appeler théosophie.
Alors en 51, donc elle rencontre ce fameux Mahatma Moria. En 58, elle passe par la France et l'Allemagne. En 59, elle revient à Psorve en Russie chez sa sœur, et c'est là qu'elle se met à écrire sous un nom de plume V de Jeliovski, qui décrira des phénomènes paranormaux. Elle n'est pas médium à l'époque, hein, elle n'est pas médium, mais elle fait des histoires de dédoublement, etc. Après, à partir de 65, elle visite les Balkans, la Grèce, l'Égypte, la Syrie, l'Italie. Enfin, elle se promène beaucoup, 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 beaucoup. Mais elle était peut-être partie avant.
Elle part dès l'âge de 18 ans, hein, donc dès 1849, hein, puisqu'elle est née en 31. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est plus de 20 ans, parce qu'elle va...
En 48, c'est son père qui commence à lui financer ses... Donc, 48, dès octobre 48, aidée financièrement par son père, elle réalise une première série de voyages où elle va rencontrer donc ces fameux sorcières bouteux, chamanes, lamas du Caucase et du Tibet, yogis d'Inde et de Ceylan, spirites russes et égyptiens, médiums, etc.
Voilà. C'est assez extraordinaire, d'ailleurs. Du 19e siècle, elle va en fait représenter une forme de féminisme en elle-même. D'ailleurs, elle va beaucoup attirer les féministes parce que c'est une femme, elle est seule et elle fait trois fois le tour du monde. C'est quelque chose d'extraordinaire au 19e siècle.
Hein. Elle a les moyens quand même.
Alors, elle vit sur pas grand-chose et je pense qu'elle vit très très modestement parce qu'elle se plaint souvent, elle réalise souvent qu'elle a plus le sou. Elle essaye parfois de monter des sociétés, mais ça marche pas tellement. Mais en fait, tout ça, ce sont des expériences pour elle, pour s'enrichir en plus des ouvrages qu'elle avait lus plus jeune.
Hein. Elle se remarie aussi à un moment, une deuxième
fois. Non, j'ai pas entendu qu'elle se... Non, ça... Je sais qu'on a dit beaucoup de choses sur elle, mais en fait, elle ne s'est jamais... Par exemple, Madame Blavatsky est toujours restée vierge. Elle n'a jamais eu de relation. Et je dis ça parce qu'elle a été accusée de tous les maux aussi, de conduite licencieuse, hein. Elle a dû faire même un examen gynécologique pour prouver qu'elle avait même une malformation. Donc il faut voir où sont allés sur Madame Blavatsky. Ça a été vraiment odieux. Mmh. Odieux. Donc non, elle est toujours restée seule. Et justement, elle représente une forme d'indépendance. Et donc je pense que beaucoup de femmes l'admiraient, peut-être certaines la jalousaient, mais elle est vraiment extraordinaire. Et puis en plus, elle va tenir tête à des hautes autorités religieuses, scientifiques. Alors, elle parle plusieurs langues. Et puis, alors par exemple, elle parlait très mal anglais et elle écrit quand même relativement bien, en anglais. Et donc, elle a accès à des sources de connaissances alors qu'elle n'a aucune connaissance en zoologie, en géologie. Certains sont étonnés de son savoir au niveau de la Kabbale, au niveau de la philosophie grecque. Et voilà, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a ces informations de certains des maîtres, et ce qui est vrai. Donc elle écrit Isis dévoilée avec toutes ces connaissances-là, et elle rencontre quelques années avant le colonel Olcott, qui a assisté à la rédaction d'Isis dévoilée. Donc le colonel Olcott, c'est un Américain, et c'est un homme d'une grande probité. C'est un homme de loi, et il avait enquêté par exemple sur des pots de vin durant la guerre de sécession, sur la mort de Lincoln. Donc c'est quelqu'un qui est très très rigoureux. Et il se plaît à démasquer tout ce qui est spiritisme. Parce qu'à l'époque, il y a une grande vague de spiritisme. En fait, les gens s'intéressent beaucoup à ça. Et puis l'occultisme, pour beaucoup de gens, ça se résume à des séances de spiritisme, c'est-à-dire de contact avec des défunts. Il y a des phénomènes de matérialisation. Et il y a bien sûr beaucoup de supercherie. Et Olcott essaye de les démasquer. Et il est vraiment terrible. Et Madame Blavatsky le rencontre en 1873 aux États-Unis, dans une grande maison dans le Vermont, et c'est là qu'ils vont vraiment... En fait, ils se retrouvent, si on veut dire, parce que si on accepte l'idée de la réincarnation, on retrouve des gens que l'on a connus, avec qui on a déjà travaillé, avec qui on a des liens profonds, et ils se reconnaissent quelque part tout de suite, et ils vont s'associer avec un troisième personnage qui s'appelle William Judge, lui aussi américain, et ils vont donc cofonder la Société théosophique, Olcott étant le directeur, le président, et Madame Blavatsky la secrétaire. Donc Olcott assiste et a vécu même avec Madame Blavatsky. Donc son témoignage est un témoignage de poids, parce que donc il explique comment elle change de physionomie même quand elle écrit Isis dévoilée. Il y a plusieurs maîtres qui travaillent à travers elle. Donc c'est pas une médium, c'est sous un phénomène ésotérique qui s'appelle l'adombrement. C'est pas du tout de la médiumnité, c'est le moyen par lequel un maître travaille sur les plans supérieurs de l'âme à travers un disciple entraîné pour cela. Donc Madame Blavatsky s'est entraînée des années pour cela, et même peut-être pendant des vies. Et donc Olcott raconte tout ça, et il raconte aussi tous les phénomènes paranormaux, dirait-on, à l'époque, ou tous les miracles, quelque part, tous les phénomènes que Madame Blavatsky va créer, va produire en la présence de nombreuses personnes. Alors il y a même des rapports qui sont faits. Elle fait apparaître des choses, disparaître des choses. Il y a par exemple, si on va à la Société théosophique à Madras, il y a une tasse de thé qui a été matérialisée sous la terre. Donc là, il y a eu des gens qui étaient présents, qui ont écrit elle. Donc c'est aussi des notables. Il y a des notaires, des avocats, il y a des médecins. C'est pas des gens illuminés qui témoignent. Elle va aussi lire, elle était capable par exemple de lire des lettres cachetées, non ouvertes. Il y avait des lettres qui se matérialisaient dans des coussins brodés, fermés. Il fallait ouvrir le coussin et on trouvait une lettre dedans, datée d'aujourd'hui, avec parfois les réponses des questions posées quelques minutes avant. Enfin voilà, des choses qui ne pouvaient que troubler l'esprit d'occidentaux. Et d'ailleurs, elle va se faire accuser sur ces fameuses lettres. Il y a un couple qui s'appelle les Coulons. Madame Blavatsky avait rencontré Madame Coulon en Égypte. C'est quelqu'un de pas très honnête qui a dû fuir à cause d'une faillite frauduleuse. Et Madame Blavatsky, comme Cagliostro d'ailleurs, était quelqu'un de très généreux, qui accueillait facilement les gens, qui prêtait facilement, qui aidait facilement. Et là, elle va laisser les clés de son bureau et cette dame va inventer un stratagème vraiment idiot, stupide, on va accuser Madame Blavatsky sur des histoires de fausses trappes qui lui auraient permis de faire apparaître des choses, enfin des choses très très grossières, et des fausses lettres. Et il y a un rapport, il y a un rapporteur, un enquêteur de la Société de Recherche Psychique de Londres qui va venir dans cette ambiance-là et qui va être influencé et par les Coulons et par des missionnaires chrétiens qui détestaient Madame Blavatsky parce qu'ils voyaient d'un très mauvais œil.
Tout ce qu'on abordera en deuxième partie d'émission. On va écouter La Voix du Silence, c'est une musique qui se trouve avoir été faite par les Rose-Croix sur Blavatsky. Donc il y a de la flûte et ça s'appelle La Voix du Silence. On se retrouve tout de suite après, d'accord ?
D'accord.
Voilà, et on va reprendre. Nous sommes toujours avec David Goulois, qui nous parle de l'enseignement d'Elena Blavatsky, dit HPB. Elena Blavatsky, dont on rappelle les 1831-1891, donc qui est la créatrice de la société. Elle fonde le 7 septembre 75, officiellement le 17 novembre 1875 à New York, la Théosophical Society, la société théosophique, avec donc Henry Steele Olcott comme président et William Quan Judge comme secrétaire. David Goulois.
Oui.
Oui. Donc cette société théosophique, quelle est son intention?
Alors, donc je ne l'ai plus de tête, mais ça on peut trouver ça facilement.
Il y a moi je l'ai là. L'intention des fondateurs était d'assurer, de créer pour le 19e siècle un outil efficace au service de ce grand mouvement théosophique de tous les temps. Les trois buts de cette société sont de former le noyau d'une fraternité universelle de l'humanité sans aucune distinction de race, de couleur ou de croyance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, encourager l'étude comparée des religions, sciences et philosophies. Et la troisième chose, faire l'investigation des pouvoirs psychiques et spirituels latents dans l'être humain. Voilà. Donc, cette société théosophique est partie d'abord à New York, on est d'accord. On a une antenne à Paris aussi, même deux antennes à Paris.
Alors, il y a la société théosophique proprement dite, qui est Square Rap.
Oui.
Et puis, il y a la loge unie des théosophes. Donc, il y a eu une forme de scission. Bon, moi, je ne suis pas théosophe, donc... voilà, moi je suis un fidèle lecteur de Madame Blavatsky, mais voilà, c'est grâce à la société théosophique qu'on peut avoir les éditions, c'est chez Adyar, les éditions donc des ouvrages de Madame Blavatsky. Il faut quand même préciser, je parlais tout à l'heure du rapport Oxon, c'est que 100 ans après, donc déjà un an après, il était déjà désavoué parce que les méthodes scientifiques n'étaient pas là, hein, ça a été fait un peu n'importe comment, et 100 ans après, la même société a complètement désavoué ce rapport. Donc, Madame Blavatsky est quelque part lavée de tout soupçon, mais on continue malheureusement d'entretenir donc un mythe. Et aussi en France, on a eu l'ouvrage de René Guénon qui a fait beaucoup de mal sur Madame Blavatsky. Donc on a des gens
René Guénon qui dit l'un des opposants les plus documentés au théosophisme, ce qui considère celui-ci comme étant une erreur des plus dangereuses pour la mentalité contemporaine. Et on va savoir pourquoi il pense que c'est une erreur. Peut-être.
Alors, il est même pas bien documenté, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il confond, par exemple, deux frères. Un frère qui est un grand philosophe, c'est les frères Soloviov, qui a, lui, reconnu et admiré le travail de Madame Blavatsky, donc il lui avait beaucoup de renom, et le confond avec son frère qui était un type de pas très honnête et qui a approché Madame Blavatsky, dit-il, pour mieux la tromper. Donc voilà ses sources, c'est le rapport Oxon. Alors qu'il est désavoué déjà un an après, il est déjà critiqué. Donc en fait, il va malheureusement, cet auteur va entretenir, et il faut savoir que c'était une commande de certains catholiques, ultra-catholiques, qui lui ont fait cette commande. Il a écrit des articles dans ces revues-là. Et puis on lui a demandé, on lui a permis de pouvoir être édité pour créer, écrire ce pamphlet en fait. Hein. C'est une attaque virulente sur Madame Blavatsky. Et moi j'ai rien contre Monsieur Guénon, mais même dans son œuvre, on peut trouver chez Monsieur Guénon beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui sont pas du tout fondées ou alors. Qu'on pourrait largement critiquer. Et voilà, c'est à cause de cet auteur, on continue par exemple d'appeler la théosophie théosophisme, alors que Madame Blavatsky mérite le nom de théosophie. Théosophisme, c'est un néologisme qui a une connotation négative, alors que Madame Blavatsky est beaucoup plus proche des premiers théosophes qui étaient les néoplatoniciens. Elle s'est appelée d'ailleurs volontairement. Elle a appelé son mouvement volontairement théosophie, en référence à ce mouvement qui est, vers le 2e siècle, 3e siècle après Jésus-Christ, et c'est un mouvement, c'est les derniers néoplatoniciens qui véhiculent tout, tout le savoir des philosophies antiques, à travers Platon, à travers donc Pythagore, parce que Platon était beaucoup influencé par Pythagore, et aussi l'hermétisme. Donc c'est une des dernières traditions ésotériques avant que l'Église officielle soit reconnue par Rome, que le christianisme devienne religion officielle, et on sait qu'il va y avoir après une destruction des temples, destruction des livres, de toutes les cultures anciennes, alors que le christianisme s'est largement appuyé. Donc elle condamne beaucoup, Madame Blavatsky, il est vrai, ce christianisme dogmatique, et elle est beaucoup plus proche des premiers théosophes que ceux qui la critiquent. Donc il y a beaucoup d'injustice envers Madame Blavatsky, mais je pense qu'au fur et à mesure, son image est en train de changer. Alors il y a par exemple une thèse de doctorat très intéressante d'une dame qui s'appelle Madame Lalande, si je me souviens bien, qui a écrit une thèse sur le mouvement théosophique en France, et elle explique très très bien un peu le climat en France, le climat très anti-théosophie, qui émanait beaucoup de catholiques qui voyaient, comme les missionnaires en Inde, hein, un danger dans la théosophie. Et donc Guénon, qui était au début très proche de ces mouvements-là, cherchait à être publié. Il était publié grâce aux appuis. Hein. Donc ça, c'est historique. Hein. On peut vraiment le vérifier. Donc je recommande cette thèse. Elle est en libre accès sur Internet. Et on a beaucoup d'informations en France sur un peu le contexte de la société théosophique.
Alors justement, cette société théosophique qui part de New York, hein, et qui arrive en France, l'immeuble au 7 Square Rapp est magnifique, il y avait beaucoup d'argent quand même.
Donc moi je l'ai visité et ça a été créé, on m'a dit après, hein, c'était un militaire, si je me souviens bien, qui a mis à disposition ses locaux.
C'est libre.
Après la mort de Madame Blavatsky, hein.
C'est Lib Water, ou je ne sais plus son nom, là, Lib.
Ah, Lib Better.
Ouais, c'est lui, non?
Non, non, c'est pas lui. Non, non, c'est un Français. Lib Better parlait bien français, mais il était, lui, c'est un anglo-saxon. Non, non, ce sont des locaux qui ont été mis à disposition, et donc la société théosophique a pu, et est toujours installée dans ces locaux.
Parce que c'est magnifique, quand même. Hein,
c'est très, très beau. C'est un très bel immeuble. Il y a une grande librairie. Il y a toujours des cours, je crois, même si c'est quand même beaucoup moins bien fréquenté qu'avant. Mais ils ont le mérite de faire
perdurer. Ils ont même des cours samedi prochain et dimanche prochain. Voilà. Vous cherchez Adyar, parce qu'il y a deux sociétés théosophiques, donc il y a des cours dans les deux.
Voilà,
mais vous cherchez la salle Adyar, qui sont gratuits d'ailleurs. Et puis il y a le fameux Lotus Bleu, ce livre, enfin ce journal qui paraît tous les mois.
Alors, Blavatsky, c'est vraiment un auteur prolifique. Elle a écrit, en plus de d'Isis dévoilée, de la doctrine secrète, elle a écrit d'autres ouvrages. Elle a écrit quelques centaines d'articles. Enfin, elle a écrit, comme tu disais avant, dans des revues. C'est un travail colossal. Alors, toutes ces attaques, elle a failli, ça l'a tuée quelque part. Hein. Elle a été beaucoup atteinte par cela. Elle a écrit la doctrine secrète, elle s'est publiée en 88, mais c'est écrit au moment où elle vit ces attaques-là. Elle est traînée dans la boue, elle ne peut pas se défendre. Elle a vraiment vécu une vie. Alors ça correspond aux vies que vivent ceux qui atteignent une initiation. C'est la quatrième initiation. C'est une initiation où on est proche de la maîtrise. Ça correspond à l'état d'arhat dans le bouddhisme. C'est-à-dire que Jésus a vécu cette initiation. Il a vécu des sévices physiques et des tortures aussi mentales quelque part. Blavatsky était essentiellement torturé mentalement quelque part. Hein. Et on vit toujours des vies très difficiles quand on passe cette initiation, parce qu'on renonce à tout. On renonce à l'argent, on renonce aux honneurs, on renonce souvent à la famille, on renonce au confort de la vie, on renonce à tout pour s'identifier dans la nature du soi. Et tous ceux qui ont passé cette initiation ont souvent, toujours vécu d'une manière ou d'une autre, des vies très intenses, mais ces gens ont toujours eu un impact mondial très, très important. On trouve ça dans les enseignements plus d'Alice Bailey, donc qui écrit de 1919 à 1949. Et Alice Bailey, elle continue l'œuvre de Madame Blavatsky. C'est la deuxième phase. Et on a beaucoup de renseignements sur les initiations et les rayons. qui était, à la fin de la vie de Madame Blavatsky, le contenu de l'enseignement oral que Madame Blavatsky donnait. Elle a écrit, elle a fondé une loge à Londres, les dernières années de sa vie, hein, de 88, 89 jusqu'à 91, et elle transmet un enseignement oral, et elle commence à donner les rudiments des sept rayons.
C'est sept rayons d'énergie. Voilà, c'est sept rayons d'énergie et c'est sept catégories d'hommes et de femmes aussi qui appartiennent. Voilà. C'est chacun un rayon d'énergie.
On est tous. Alors notre âme, notre soi se trouve sur un des trois rayons majeurs. Notre âme sur un des sept rayons. Et après notre personnalité, notre mental, nos émotions et notre corps lui-même sont soumis à l'influence de ces rayons. Alors ça va être beaucoup plus détaillé dans les enseignements d'Alice Bailey. Et Madame Blavatsky a annoncé qu'il y aurait une suite, qu'il y aurait un auteur qui donnerait la clé psychologique de la doctrine secrète, elle ayant donné essentiellement la clé métaphysique. Il y a beaucoup de métaphysique chez Madame Blavatsky, car Madame Blavatsky se trouve sur le premier rayon d'énergie, le rayon de la volonté, de la puissance. D'ailleurs, tout le monde reconnaissait en elle cette puissance spirituelle. Dans son regard, on peut même voir cette puissance spirituelle. Et ça donne souvent de très grands occultistes. Hein. L'occultisme, proprement dit, ça se trouve vraiment sur le premier rayon. Donc, on a les bases de l'enseignement des rayons, qui est donné par Madame Blavatsky, des initiations.
Qui est donné à quel endroit? Est-ce que c'est dans la...
À Londres.
Oui, mais c'est pas donné dans la doctrine secrète.
Non, c'est un enseignement oral. Il faut savoir qu'il y a toujours un enseignement écrit et oral. Hein. Donc on a toujours, moi qui ai connu Benjamin Crème, je peux l'attester avec beaucoup d'autres. Hein. Il y a les choses qui sont écrites et puis il y a les choses qu'on apprend, qu'on reçoit oralement. Et il y a toujours deux pans, deux choses, deux éléments. Il y a un côté peut-être plus exotérique, un côté peut-être plus ésotérique, plus intime. En tout cas là, Madame Blavatsky fait le choix de donner des enseignements de base sur donc les rayons, les initiations, et elle fait connaître l'existence des maîtres et elle donne le nom des maîtres, elle dit quel maître se trouve sur tel rayon, et elle va malheureusement beaucoup le regretter, car dès la fin de sa vie, elle commence à voir un petit peu l'usage que les Occidentaux vont faire, et notamment les théosophes. Hein. Ils vont croire qu'ils sont parce que les gens sont souvent très orgueilleux, ils vont croire qu'ils sont très très vite atteints telle initiation, qu'ils sont en contact avec tel maître, que les maîtres leur disent ceci, cela. En fait, on a un petit peu une amorce de ce qu'on va voir après dans le mouvement New Age, hein, des gens qui pensent être en contact avec l'archange machin, avec les pléadiens, avec tel maître. Et en fait, ce sont des formes pensées qui sont sur le plan astral et émotionnel que des gens sensibles sur le plan émotionnel contactent. Et ces formes pensées, elles parlent, elles ont une certaine lumière, mais c'est comme l'expliquent les maîtres, une sorte de facsimilé, de reproduction de leur image sur le plan astral, et on se fait piéger en contactant ces niveaux-là. Donc elle va beaucoup le regretter, mais le maître tibétain Joel Kool, qui a écrit à travers Alice Bailey, a dit qu'en fait c'était voulu et que les maîtres voulaient commencer leur phase de réamorçage, leur émergence publique. Donc Madame Blavatsky a été la première femme au monde, la première occidentale, à faire connaître publiquement, ouvertement, l'existence d'un règne supérieur à l'évolution humaine. C'est, je dirais, son idée majeure, première. Parce que s'il y a une tradition primordiale, comme disait Guénon, qui a repris tout simplement l'idée de doctrine secrète, hein, si on a une source commune à toutes ces philosophies, ces religions, mais aussi à ces découvertes scientifiques, si elles émanent d'une même source, c'est qu'il existe donc des maîtres de sagesse pour les inspirer. Et c'est ça qu'elle a essayé en fait de démontrer tout au long de ses ouvrages et surtout dans la doctrine secrète. Elle compare beaucoup de métaphysique, de philosophie, de religion, et elle montre qu'elles sont fondées sur les mêmes principes, mais que ces principes sont exprimés différemment selon la culture, selon l'époque, selon les besoins, et aussi selon la nature de l'individu, parce que chaque être humain a la responsabilité, il a la responsabilité de transmettre à travers son filtre ce qu'il a compris, ce qu'il a reçu s'il est sous l'impression spirituelle d'un maître de sagesse ou s'il est lui-même inspiré seulement par son âme. Mais en tout cas, on est tous responsables de ce que l'on produit. C'est pourquoi on a des variations, parfois des semblants d'opposition. Mais en fait, fondamentalement, il y a une doctrine secrète, il y a un enseignement ésotérique, moi j'appelle ça la sagesse ancienne, pour faire référence aussi à l'origine ancienne. On entend dans Alice Bailey et chez Benjamin Crème, et on parle de sagesse éternelle. C'est l'idée qu'il y a depuis très longtemps un enseignement divulgué par des maîtres. Et ça, c'est la première grande idée de Madame Blavatsky, quelque part. Et donc, cette première grande idée, elle est liée à une autre grande idée, c'est que l'humanité est née il y a 18,5 millions d'années. Alors, je ne mets pas d'ordre, hein, forcément, dans ces idées, on pourrait mettre ça avant, peu importe. Hein. Mais là, je sors comme ça de tête les idées clés, selon moi, de Madame Blavatsky. Donc, l'humanité est très vieille. Elle a 18,5 millions d'années. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'en était pas là du tout. Hein. Maintenant, on a retrouvé des ossements et on remonte à plusieurs millions d'années, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et non seulement elle est née il y a 18,5 millions d'années, mais elle est, comme on a cette idée dans plusieurs livres occultes, hein, que l'humanité a une nature terrestre, donc un corps et un corps animal, quelque chose qui est offert par la nature, quelque part. Et elle est aussi aidée, cette nature, par une inspiration. Une inspiration spirituelle, et elle explique qu'il y a un ange solaire, il a plusieurs noms, on parle d'Agnisvata en sanskrit, les soufis disent aussi qu'on a un ange, enfin on a cette idée que l'âme est un ange qui descend, la fameuse chute des anges, quelque chose qui est souvent peu compris, et on est une étincelle qui va rayonner ou descendre à travers cet ange qui sert, c'est notre âme, qui sert d'intermédiaire, entre notre esprit et notre personnalité. Donc elle explique les bases de la nature ternaire de l'homme, et elle va expliquer aussi à partir de là la nature septénaire de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est septuple, à l'image des sept rayons, on a sept véhicules. Et elle va donner différentes classifications de ces véhicules. On a grosso modo trois principes spirituels, alors elle reprend les mots sanskrits, Atma, Bouddhi, Manas, on pourrait dire esprit, amour, sagesse et intelligence spirituelle. Et on a après un quaternaire inférieur. Alors on dirait, nous maintenant, une personnalité, un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. Et physique éthérique. Alors elle fait parfois des classifications diverses. Elle parle de corps énergétique. Elle mêle aussi les mots. Alors elle mêlait aussi volontairement à l'époque. Hein. Par exemple, le mot astral. Parfois, il faut comprendre éthérique chez elle, ou parfois vraiment astral en tant qu'émotionnel. Elle mêle volontairement, elle cache encore des choses à l'époque. Et il faut savoir qu'on est au 19e siècle et que toutes ces notions sont complètement nouvelles. Enfin, elles sont perdues parce que Platon disait déjà qu'on était sous l'influence des planètes et qu'on prenait des qualités et des défauts quelque part dans la fameuse lumière astrale, la lumière des astres. On a ça chez aussi Paracel, c'est qu'on est influencé par les planètes et qu'on tire nos principes des énergies de ces planètes qui constituent différents niveaux de notre être. Donc ça, c'était en fait connu, mais perdu. Et Madame Blavatsky remet au goût du jour ces anciennes doctrines et elle les explique avec beaucoup de brio et beaucoup de profondeur. Elle explique que ce ne sont pas donc des rêves et qu'on est vraiment soumis à ces sept sphères planétaires. Et ça va donner nos fameux corps subtils. Et on est donc un être ternaire ou septénaire, selon le point de vue adopté. Donc ça aussi, c'est complètement nouveau.
Ok, on va repartir un peu en musique. Juste une petite pause. Voilà, toujours la voix du silence, c'est une musique que vous pouvez retrouver sur YouTube. qui a un texte en, derrière en plus assez intéressant. Nous sommes toujours avec David Goulois. On parle d'Elena Blavatsky, dit HPB, et donc de cette société théosophique. On peut savoir à quel moment elle est arrivée à Paris même?
Je crois que, si je ne raconte pas de bêtises, autour des années 80, je crois 84, 86, je ne sais plus précisément. Je ne suis pas non plus un grand spécialiste de la biographie de Mme Blavatsky, je connais mieux le contenu de son œuvre. Mais la Société théosophique française va naître assez vite, en fait. Hein. Donc tout à l'heure, je parlais de la thèse, c'est peut-être intéressant que je donne la oui. thèse précise. Elle s'appelle Marie-Josée Delalande.
Oui, Marie-Josée Delalande.
Et ça s'appelle le mouvement théosophique en France, 1876-1921. Voilà, elle explique un peu le début hein, de ce mouvement en France, c'est assez intéressant.
C'est-à-dire après la mort de Blavatsky, qui meurt en 60...
Ça commence un petit peu avant, c'est en 76, elle meurt en 91.
Voilà, donc après, là, ça ramène jusqu'à 1921.
21, c'est la date de publication de l'ouvrage pamphlétaire de Guénon, Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Mmh. Alors, en plus, c'est pas du tout une religion, donc vraiment... Mais elle, c'est une historienne, elle n'est pas du tout sur la polémique, mais on peut un peu mieux comprendre le contexte. Donc, on ne l'a pas dit, mais Mme Blavatsky va avoir une reconnaissance de poids, surtout du point de vue des orientaux.
Oui, avec Gandhi.
Alors voilà, Gandhi, par exemple, mmh. La rencontre, il est tout jeune, hein. Il la rencontre, il est encore avocat, Gandhi, et il dit que la théosophie, c'est ce qu'il y a de... c'est le meilleur de l'hindouisme, si je me souviens bien, hein, de tête. Hein. Mm. Et ça, par exemple, si on fait des biographies de Gandhi, on va montrer sa vie en Afrique du Sud, comment au fur et à mesure il va monter son mouvement, mais on ne fait jamais état de cette rencontre qui, pour lui, il le cite dans sa biographie, hein, a été décisive. Hein. Madame Blavatsky, il faut savoir que à cette époque, les Indiens n'ont qu'une envie, quelque part, c'est de ressembler aux Occidentaux. Ils copient leur tenue vestimentaire, ils ont tendance à un peu repousser, c'est l'ère victorienne, hein, on est en plein dans l'époque scientiste aussi, hein, donc tout ce qui est ancien, tradition, on a un peu tendance à juger ça comme de l'obscurantisme. Madame Blavatsky lui montre la beauté, la grandeur, la dignité de la tradition indienne. Et Madame Blavatsky et aussi Madame Besant et d'autres hein, vont faire beaucoup pour l'émancipation de l'Inde. Elle est, ça c'est aussi une source aussi de conflit, c'est-à-dire que les Britanniques sur place vont la prendre pour une espionne russe, parce qu'elle est en train de montrer aux Indiens que leur tradition est très profonde, et non seulement elle est profonde, mais elle affirme en plus que l'Inde est à l'origine de la culture occidentale. À plein de niveaux, hein, pas seulement au niveau religieux. Alors maintenant, ça commence à être des choses connues. On commence à voir que même, je ne sais pas moi, on a des... par exemple, pour les livres d'Homère, eh ben, on en trouve des traces hein, dans le Mahabharata, par exemple. On trouve beaucoup de découvertes scientifiques très précoces en Inde, sur l'astrologie, sur l'alchimie, sur la médecine... Et on sait maintenant que le sanskrit est une des langues les plus proches du proto-indo-européen, la langue de base sûrement parlée par les Aryas. Alors les Aryas, c'est les peuples d'origine originaire de l'Asie centrale, mais ça, c'est des idées nouvelles. Et donc, elle apporte ça à un public occidental, assuré de la supériorité, il faut le dire, de la race blanche, hein, de la supériorité de la culture occidentale. Et ben, elle, ce qu'elle dit, c'est que les Indiens, ce sont nos pères. Ce sont la culture européenne vient d'Inde, donc les Indo-Européens, ça a été peut-être la première ou une des premières à défendre cela, et ça va aller jusqu'à l'indépendance de l'Inde, à laquelle va participer Gandhi. Alors Annie Besant et d'autres aussi vont beaucoup travailler auprès du Congrès indien, donc il va y avoir un mouvement d'émancipation de l'Inde. On parlait aussi de féminisme, Blavatsky va attirer beaucoup de féministes. Et comme Annie Besant, qui va être directrice de la Société théosophique, Annie Besant, c'est une grande activiste de gauche, presque d'extrême gauche, on dirait maintenant. Elle défend la lutte ouvrière, l'émancipation des femmes, et elle est athée. Donc c'est quand même pas mal. Et elle va être subjuguée, elle va tomber en amour, comme diraient les Québécois, de Madame Blavatsky, et elle va devenir sa plus fidèle assistante et devenir elle-même directrice. Et elle va faire beaucoup, Madame Besant, elle va publier beaucoup de livres pour, elle va en quelque sorte vulgariser beaucoup Madame Blavatsky.
Alors donc le premier volume d'Isis dévoilé d'Elena Petrovna Blavatsky commence par une allusion à un très très vieux livre, si vieux que nos antiquaires modernes pourraient indéfiniment méditer sur ses pages sans pouvoir se mettre d'accord au sujet de la nature de ce tissu sur le quoi il est écrit. Il s'agit du livre de Dzian.
Dzian. C'est dans la doctrine secrète plutôt, je pense.
Dans la doctrine secrète. Alors ce livre, elle est allée le chercher très loin.
Alors en fait, elle est allée donc au Tibet. Alors on a dit aussi qu'il n'y avait pas de la maçonnerie, qu'il n'y avait pas ce maître-là. On a eu après des occidentaux comme Rolf Alexander, McDonald Bain, Bert Spelding, qui sont allés au Tibet, qui ont rencontré le maître Jewel Cool dans sa lamasserie. C'était avant l'invasion du Tibet. Donc cette lamasserie, ce maître, existe vraiment. C'était le maître qui a travaillé à travers Madame Bailey. Et Madame Bailey raconte qu'un de ses amis a rencontré ce maître à la frontière indo-tibétaine. Il lui avait remis un paquet pour Madame Bailey. Donc voilà, ce n'est pas des gens qui sont sortis du fruit de l'imagination de Madame Blavatsky. Donc je parle de ce maître-là parce que c'est un des maîtres les plus instruits de la hiérarchie des maîtres. Et ce maître lui a donné accès à des livres. Et Madame Blavatsky parle des commentaires de ce vieux livre, qui sont les livres de QT. Alors on s'est dit, Guénon compris et d'autres, ça n'existe pas, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, en 83, on a fait des recherches, et on a découvert ces fameux livres de QT, qui sont les livres de QT.
Il y en a sept, c'est ça.
Et en fait,
c'est le premier, le livre de Dzian.
Voilà, il y en a en fait plusieurs. Là, je parle des commentaires de ce livre-là. Ce sont des livres qui appartiennent, en fait, des tantras qui appartiennent au Kanjur. Le Kanjur avec le Tanjur, ça donne le canon tibétain. Et donc, on s'est rendu compte, encore une fois, que c'était pas n'importe quoi, que ces ouvrages existaient. Ce sont des livres très difficiles pour nous à comprendre. Il y a beaucoup de savoir occulte qui est écrit de façon, voilée, avec beaucoup de symboles et avec un discours. Voilà, c'est tantra du Kanjur, hein, c'est ça. Et donc, Madame Blavatsky est reconnue. Alors ça, c'est pas su. Mais le 9e Panchen Lama de l'époque reconnaît qu'elle a été initiée, qu'elle est vraiment instruite, initiée au sens occulte du terme. Elle a vraiment pénétré la doctrine du bouddhisme tibétain. Même l'actuel Dalai Lama a écrit le 26 avril 1989 tout le bien. C'est à l'occasion du centenaire de l'apparition de la voix du silence. Et il a écrit tout le bien. Alors ça, je l'ai fait traduire. Je peux le lire en français. Tout ce que l'actuel Dalai Lama pensait. J'ai rencontré les membres de la Société théosophique pour la première fois il y a plus de 30 ans, alors que je visitais l'Inde pour assister aux célébrations du 2500e anniversaire du Bouddha. Depuis, j'ai eu le plaisir, de partager mes pensées avec des théosophes de tous les pays du monde à de nombreuses reprises. J'ai beaucoup d'admiration pour leur quête spirituelle. Je crois que les êtres humains peuvent être bons sans nécessairement être spirituels. Je leur reconnais également le droit de ne pas vouloir être spirituel ou de ne pas croire en une religion particulière. En même temps, j'ai toujours cru que le développement intérieur ou spirituel était nécessaire à un plus grand bonheur humain et pour accroître notre capacité à aider les autres. C'est pourquoi je suis heureux d'entretenir cette longue association avec les théosophes et d'apprendre la sortie de l'édition du centenaire La Voix du Silence, qui va être publiée cette année. Je crois que ce livre a fortement influencé nombre de chercheurs et d'aspirants sincères dans leur quête de la sagesse et de la compassion du sentier du Bodhisattva. J'accueille avec grand intérêt cette édition du centenaire et j'espère qu'elle profitera à un public encore plus nombreux, le 14e Dalai Lama, le 26 avril 1989. Donc elle a eu la reconnaissance de ce Dalai Lama, du docteur Suzuki, pour ceux qui connaissent, d'un lama aussi qui s'appelle Lama... si je prononce bien, Kasi Dawasndoup, qui est un lama qui a d'ailleurs accompagné Alexandra Davinil. Et Alexandra Davinil, on pense que c'est la première à avoir pénétré le Tibet, mais pas du tout. Madame Blavatsky l'avait précédé bien avant, et on apprend que d'ailleurs, Madame Davinil était théosophe, et elle a dû, à mon avis, se renseigner sur les voyages de Madame Blavatsky, mais elle n'a pas fait mention de cela. Moi, c'est un reproche que je pourrais lui faire.
Est-ce qu'elles se sont rencontrées, non ?
Ah non, 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 non. Elle voyage, je dis, plusieurs décennies après Madame Blavatsky. Oui. Donc c'est, et elle va voyager d'ailleurs avec ce lama, Lama Kasi Dawasandub, qui va d'ailleurs être un des premiers, si ce n'est pas le premier, à écrire, à traduire le livre des morts tibétains. Okay. Il lui reconnaît aussi le savoir de Madame Blavatsky, s'intéresse beaucoup aux ouvrages de Madame Blavatsky. Donc elle a quand même le Panchen Lama, il faut voir que c'est le représentant, plus que le Dalai Lama, c'était à l'époque le représentant du savoir ésotérique, et ce savoir était concentré à Shigatse. Et c'est là, dans ce monastère de Tachilumpo, où Madame Blavatsky va résider, où d'autres occidentaux après vont aller, être entraînés, et le maître Joel Kool, y tenait un rôle, alors c'est surtout, c'était un lieu pour lui de résidence, mais aussi il avait parfois, il tenait certaines fonctions, dit-il, au niveau de cette lamaserie, mais bien sûr, le Panchen Lama, c'est une sorte de disciple pour ce maître. Hein. Donc voilà, Madame Blavatsky a, alors il y en a d'autres, hein, mais elle a quand même une reconnaissance de grands initiés orientaux. Donc c'est pas rien ça. Hein. On peut pas en dire autant de ses détracteurs. Hein.
Alors donc on répète que le livre de Kyuté dénombrerait donc un ensemble de livres qui comporte 35 volumes accessibles à tous, de nature donc exotérique. Il y a 7 livres sacrés et secrets qui produisent au cours des siècles 14 volumes appelés commentaires. Le premier de ces 14 commentaires est le livre de Dhyana, qui signifie état de connaissance en sanskrit, et qui donne la doctrine secrète est une explication, une divulgation, une sorte de commentaire de ce premier commentaire dit livre de Dhyana. Voilà.
Voilà. C'est une vieille langue, le Sanskrit, qui est plus ancien que le sanskrit.
Mais comment elle a pu se faire,
Elle a appris auprès des maîtres, cette langue. Et cette langue existe parce que ce fameux 9e Panchen Lama écrivait parfois et communiquait avec elle avec des petits mots. Ce sont des hiéroglyphes, des sortes de... C'est une graphie, hein. C'est des idéogrammes, voilà. Et c'est une langue plus ancienne que le sanskrit. Alors, on retrouve beaucoup de mots en sanskrit. Par exemple, Dhyana, ça va donner après Dhyana. Et Dhyana, c'est la méditation. En chinois, ça va devenir Chan, et ça va devenir Zen au Japon. Hein. C'est la méditation, c'est la sagesse. Mais c'est une ancienne langue que les maîtres connaissent, pas tous, et qu'elle a dû apprendre cette langue, et elle communiquait, donc, à tel point qu'on est tombé sur des petits billets, et c'est vraiment une preuve de la... c'est vraiment ridicule, parce que les Britanniques tombent sur des petits billets de Madame Blavatsky, écrits avec ses hiéroglyphes, et ils pensent que c'est un code secret pour... destiné à communiquer avec la Russie, elle étant bien sûr une espionne russe.
Une sorcière russe, comme ils l'appellent aussi.
Et elle se faisait suivre en Inde, hein. ça allait vraiment jusqu'à là. Elle avait comme ça des espions, enfin des gens qui étaient chargés de la surveiller. Et quand ils tombent sur ses billets, voilà, bien sûr, ils ne connaissent pas du tout cette langue et ils pensent que c'est un code secret russe. Donc voilà, on a vraiment des preuves, même de l'existence de son maître, par exemple, du maître Moria, on a la preuve. Elle avait un appartement à New York et elle faisait venir beaucoup d'intellectuels, de journalistes, de gens influents. Et les journalistes, il y a eu même un papier là-dessus, voient le maître Moria dans son appartement. Et maintenant, il sort par la fenêtre et il disparaît. Et ça, ça a été écrit, les gens y ont assisté, en plus de tous les phénomènes dont je parlais. Donc, on a quand même des preuves des phénomènes, des maîtres, auquel Madame Blavatsky faisait allusion. Mais même si on ne croit pas en ça, il suffit de lire, d'étudier la doctrine secrète pour voir vraiment le caractère novateur de son œuvre. Et maintenant, on commence à découvrir de nombreuses choses. On commence à, par exemple, on va dire, les 7 rayons, tout ça, non. Alors, elle n'en parle qu'à la fin de sa vie, mais on peut aussi critiquer Alice Bellay en disant, non, les 7 rayons, ça n'a rien à voir. En fait, si on regarde le Rig Veda, moi j'ai regardé, c'est le plus vieux des 4 Védas, on trouve, je crois, 187 fois le mot 7. Mm. Et dans la Bible, plus de 500 fois. Donc il y a l'idée d'un septénaire. Il y a, c'est pour ça qu'on a 7 Rishis, 7 Kumaras, 7 Bouddhas ésotériques, 7 éléments, alors le chiffre 7 revient constamment, on a sept Ameshaspenta en Perse. On a les sept anges ou les sept Elohim de la Kabbale. On a constamment les sept planètes des anciens. On a vraiment l'idée qu'il y a sept sources d'énergie constantes. Donc, c'était des choses vraiment nouvelles. Il faut vraiment considérer que c'est le travail des gens qui sont sous l'influence du premier rayon. Le premier, c'est un. Et souvent, ils cassent ce qui est ancien, ce qui est cristallisé, et ils inaugurent du nouveau. Et c'est ce qu'a fait Mme Blavatsky, et c'est ce qui, à mon avis, a attiré beaucoup les critiques. C'est qu'elle cassait beaucoup de choses, beaucoup d'idées préconçues. Elle a vraiment montré, par exemple, que toutes les religions monothéistes étaient entièrement fondées sur les cultures plus anciennes, sur la philosophie dite païenne. Et elle l'a montré, ça. Et maintenant, quiconque... alors, c'était pas très connu à l'époque, mais si on prend le premier livre du Pimandre, dans les textes hermétiques, alors certains vont croire qu'il est juste d'origine grecque, au niveau d'Alexandrie, mais en fait, on a même des auteurs chrétiens qui disent qu'il y avait plein de livres de Thoth, qu'il y en avait de nombreux, Clément d'Alexandrie dit ça, donc on a l'idée que même l'ésotérisme grec vient d'Égypte, et Madame Blavatsky va faire beaucoup de liens avec les dieux et les mythologies égyptiennes et les dieux et les mythologies indiennes. Il y a beaucoup de rapprochements, mais c'était vraiment nouveau, ça. Alors que maintenant, il y a plein de choses, comme la réincarnation également. Maintenant, ça tombe sous le sens, mais elle a été aussi peut-être une des premières à expliquer ce phénomène de réincarnation, de montrer qu'il y avait des principes spirituels qui ne mouraient pas, le fameux Atma Buddhimanas, et qu'à chaque nouvelle incarnation, notre âme individuelle, le fameux Karana Sharira, le corps causal, recréait une nouvelle personnalité et qu'on revenait cycliquement. Elle expliquait vraiment des choses qui étaient... Alors, on peut croire en plus que c'est complètement anti-occidental, mais non, elle a montré que Platon, Pythagore croyaient en la réincarnation, qu'il y avait des sectes chrétiennes, des groupes chrétiens qui croyaient en la réincarnation, comme Origène, qui a été frappé d'anathème au VIe siècle pour ses doctrines, notamment sur la réincarnation et sur l'apokatastase, c'est-à-dire l'idée que toute l'évolution allait être après rachetée et tous les êtres allaient rejoindre Dieu. Il y a aussi une grande idée évolutionniste chez Madame Blavatsky, c'est-à-dire qu'il y a des cycles et que tout évolue. Tout a involué, mais tout évolue. Il y a en fait trois grands principes, ça je ne l'ai pas dit. Dans la doctrine secrète, il y a trois grands principes. Le premier principe, c'est que la vie est une. C'est-à-dire que tout est la vie. Toutes les vies sont simplement une facette de la vie une. Tout est unifié. Le deuxième grand principe, je les classe comme ça, les classe à l'envers, entre le deuxième et le troisième, et je préfère les classer comme ça, c'est que l'idée qu'il y a une sorte de conscience universelle qui est la source de toutes les consciences. C'est un peu la même idée, mais en termes de conscience. Et qu'il y a des hiérarchies d'êtres à tous les niveaux de la création. Et que tout est doué de conscience. À un niveau cosmique, à un niveau spirituel, à un niveau naturel, à un niveau même microcosmique. Madame Blavatsky était la première à parler des entités, des fameux élémentaux, des petites particules qui, eux, sont encore sur le stade de l'involution. Mais elle a parlé aussi des devas, des classes d'êtres qui sont sur le sentier de l'évolution. Donc elle a dit qu'il y avait toutes ces petites entités qui étaient vivantes et douées d'une certaine forme de conscience. Et la troisième grande idée, c'est que tout fonctionne selon la loi de périodicité. Tout est cyclique, d'où la Renaissance. Les univers se créent cycliquement, alors maintenant on sait qu'il y a des galaxies, qu'il y a des univers entiers qui meurent, qui croissent, puis qui se recréent à partir de ces poussières-là. Mais tout est fondé, donc la planète vit aussi des cycles, des rondes, des chaînes, etc. Elle a expliqué tout ça, et il en est de même de tous les règnes, y compris... les êtres humains qui vivent des cycles, donc on se réincarne. Elle a parlé donc de la loi de karma et de renaissance. Donc ce sont vraiment des idées extraordinaires, mais qui sont maintenant en train de devenir exotériques. Elles sont en train d'entrer dans notre champ culturel, elles sont en train d'être acceptées, d'être reconnues, d'être discutées au moins.
Ok, on va repartir.
Donc elle a fait un travail...
On va juste faire une petite minute de pause. À tout de suite. très jolie vidéo, ce qui s'appelle La Voix du Silence. Si vous avez l'occasion d'aller la voir, il y a tout un tas de d'écrits qui passent sur le texte, sur la musique. La Voix du Silence sur YouTube, extrait-HP Blavatsky. Une très 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 jolie vidéo avec de quoi réfléchir. Nous sommes toujours avec David Goulois. Il y a des choses qui se passent à la Société Théosophique, au 4 Square Rab, dans le 7e arrondissement, le dimanche 22 juin, c'est dimanche prochain, à 16h. Il y a La spiritualité n'est pas une réalité virtuelle, par Tran Ti King Dieu, qui est un intervenant qui intervient très très souvent dans cette société théosophique, pour ceux que ça intéresse. C'est le 22 juin à 16h et c'est au 4 Square Rap. David Goulois, cette société théosophique, elle perdure malgré le fait qu'elle vieillisse énormément. Je parle de Paris. Hein.
Oui, mais alors moi, comme je disais, je ne suis pas théosophe. Il y a plein de groupes comme ça qui se réunissent autour d'un grand initié. Et au fur et à mesure, il y a un phénomène de cristallisation naturelle qui se fait. Mais les idées demeurent. Et ce qui est important, c'est que c'est de considérer trois phases dans l'enseignement ésotérique moderne. On trouve cette description chez Alice Bailey. Et à la phase préparatoire, de 1875 à 1891, c'est Madame Blavatsky, la société théosophique. Mais ce n'est pas les institutions qui comptent, je parle des idées là. Il y a un nouveau pan, il y a une nouvelle révélation, des nouveaux enseignements donnés. Puis après, de 1919 à 1949, on a les ouvrages d'Alice Bailey. Et je recommande par exemple le traité sur le feu cosmique, qui a été annoncé par Madame Blavatsky, mais de façon voilée, en disant qu'il y aurait une clé psychologique de la doctrine secrète. C'est ce livre, et c'est le même maître, en fait, qui avait travaillé à travers Alice Bailey, à travers Madame Blavatsky, c'est le maître Joel Kool. On croit que c'est Moria Kutumi, eux ont donné les grandes lignes, mais le maître tibétain dont je parlais précédemment a donné beaucoup de détails, il a beaucoup écrit à travers Madame Blavatsky, et il est le seul à avoir écrit après à travers Alice Bailey. Et puis on a une troisième phase de révélation après 1975, et c'est très intéressant de voir que dans les Collected Writings sur Madame Blavatsky, dans le volume 12, il est question du retour des maîtres qui ne se fera pas avant 1975. Et on a aussi cette idée après chez Alice Bailey qu'en 1975, il y aura une forme d'émergence des maîtres. Et Madame Blavatsky, dans la clé de la théosophie, dit, à la fin de l'ouvrage, elle annonce la venue d'un nouveau de flambeau de la vérité, vers le dernier quart du XXe siècle. Et à mon avis, il est question de Benjamin Creme, parce que c'est le seul ésotériste, en 1975, qui commence à faire connaître ouvertement l'émergence des maîtres. Il faut savoir qu'à la fin de sa vie, Madame Blavatsky avait dit que tout le but de la société théosophique était de préparer l'avenue du World Teacher.
Mais est-ce que ça n'aurait pas pu être Krishnamurti aussi, tout simplement?
Alors, Krishnamurti avait été préparé par le fameux World Teacher, c'est le mot, c'est traduit par instructeur mondial. Alors, il a plusieurs noms, on l'appelle Maitreya, c'est vraiment le Christ qui a travaillé à travers Jésus, il a travaillé aussi à travers Krishna, Shankaracharya, il est attendu comme le Messie par les Juifs, l'imam Mahdi, l'avatar Kalki, etc. Il a vraiment plein de noms, mais c'est véritablement un maître, c'est le maître des maîtres. Et il a en effet travaillé et préparé Krishnamurti, et là encore on dit beaucoup de choses sur Krishnamurti, et Krishnamurti il dit qu'il n'a jamais nié, il écrit hein, qu'il n'a jamais nié, je ne l'ai jamais nié, et il parlait donc d'être le véhicule de l'instructeur mondial, hein. Il parle aussi du processus, de la présence, donc Krishnamurti était adombré par Maitreya, et en fait Krishnamurti...
Et il sortait de la société théosophique quand même.
Voilà, il a été trouvé par sur la plage d'Adyar en Inde par Leadbetter. Et Annie Besant l'a adopté comme son fils. Il a toujours beaucoup aimé Annie Besant jusqu'à la fin de sa vie. Et c'était sa mère adoptive en quelque sorte. Ils l'ont instruit et Leadbetter était un bon clairvoyant. Ils ont été conduits par les maîtres pour trouver Krishnamurti. Et Krishnamurti après est parti de la société théosophique. Il a surtout dissous l'ordre de l'étoile parce qu'il voyait non seulement toute la dévotion, mais aussi toute cette ambition spirituelle et ces mirages un peu dont on parlait, ceux qui croyaient être en contact avec les maîtres, qui croyaient avoir passé telle initiation, etc. Et il a transmis l'enseignement de Maitreya de cette manière, et Maitreya, nous dit Alice Bailey, a décidé en 1945 de revenir lui-même, et c'est pourquoi on a Benjamin Creme qui fait ce travail depuis 1975, il est adombré par Maitreya en certaines occasions, il est en contact lui aussi, avec l'un des maîtres des sagesses, et il représente cette troisième phase, une phase de révélation publique de l'existence des maîtres. Donc existence, on peut dire, qui était annoncée dès la fin du 19e siècle par Madame Blavatsky. C'est pour ça que je parle d'ésotérisme moderne. Madame Blavatsky, Alice Bailey, on peut citer aussi Elena Rorich, qui a donné les enseignements de l'Agni Yoga, qui était aussi en contact avec le maître Moria, et aussi le maître Kutumi. Il y a Alice Bailey, disais-je, Benjamin Creme. Pour moi, c'est un même corpus d'enseignement. C'est le même enseignement qui est différent parce que qu'un traite de sujets différents.
On met aussi un peu Steiner dans la même dans les mêmes recherches. Nicolas Roerich, qui était
le mari d'Elena Roerich. Alors, il faut savoir aussi que Steiner a été aussi contacté, semble-t-il, par Madame Blavatsky. En tout cas, il y a une lettre que la fameuse comtesse qui avait reçu Madame Blavatsky avait reçue. C'était signé RS, il semblerait que ce soit Rudolf Steiner, qui disait qu'après la mort, il était donc théosophe, qui était réveillé la nuit, et enfin, que la nuit, il avait eu certaines directives, certaines inspirations de Madame Blavatsky, et il a créé ce grand mouvement qu'est l'anthroposophie, même si lui s'est séparé de la société théosophique. Il y a eu beaucoup de scandales, hein, on passe dessus, mais voilà, la société théosophique a beaucoup souffert de ça. C'est l'origine aussi des scissions, en France ou alors ailleurs, mais Steiner a été beaucoup influencé. Il y a Max Endel chez les Rose-Croix, il y en a une liste très très grande qui est donnée justement par Sylvia Cranston. Même Albert Einstein avait la doctrine secrète sur son bureau, disait sa nièce. Enfin, c'est assez extraordinaire quand même, hein. On a beaucoup d'artistes aussi.
Mais c'était un mouvement qui a connu un essor très important en Europe au début du XXe siècle. Pour ceux qui sont curieux, qui ont juste envie de voir cet immeuble, l'immeuble donc qui se trouve au Square Rapp. Square Rapp, ça donne dans l'avenue Rapp. Au 4 Square Rapp, vous verrez au bout du square.
Pas loin du Champ de Mars, en fait.
Un très très vieil immeuble qui a été construit entre 1915 juste en 3 ans. C'est un immeuble merveilleux. Si vous avez l'occasion d'ouvrir, que ce soit ouvert, allez-y l'après-midi parce que vous pourrez passer par la bibliothèque, par la librairie qui se trouve à gauche. C'est vraiment un immeuble merveilleux. Et il paraît-il, alors c'est à vérifier, qu'il héberge également l'ambassade du Costa Rica en France au 4e étage. Ça, c'est à vérifier parce que, bon, vous savez, ce qu'on trouve sur Internet, c'est pas toujours intéressant, enfin, c'est pas toujours vrai. Mais bon, c'est quand même quelque chose. Il y a une superbe bibliothèque aussi au premier étage avec tout un tas de livres.
Donc, alors, il faut savoir d'ailleurs, à ce niveau-là, que à Diard, il y a eu la plus grande, je ne sais pas si c'est encore le cas, la plus grande bibliothèque d'ouvrages d'origine indienne.
Ah oui, non mais ça
c'est immense, même les orientalistes reconnaissent l'apport immense, non seulement de Madame Blavatsky, mais d'autres gens très instruits qui travaillaient avec elle, et il y a eu des publications, et il y avait une immense bibliothèque, parce qu'il y avait aussi des brahmanes, des yogis, des gens très instruits comme Subaru, qui était aussi un disciple de Moria, et donc beaucoup d'autres qui ont participé à cette société théosophique. Donc, je ne suis pas étonné aussi qu'ils aient aussi une belle bibliothèque à Diard.
Alors, qui est fermée, mais enfin, il faut demander les heures d'ouverture, hein, parce que c'est vraiment de la bibliothèque à l'ancienne, avec des très très hauts plafonds, et puis bon, je pense qu'on ne peut pas se promener là-dedans et chercher comme on veut ce qu'on cherche. C'est vraiment à visiter, en tout cas, au 4 Square Rapp. Et donc, si vous êtes intéressé, il y a cette conférence dimanche prochain, je crois. Il y a d'autres choses aussi du côté de chez Bessin. Bessin, elle a fait aussi son propre mouvement de l'autre côté. Hein.
Annie Bessin, tu veux dire ?
Oui, Bessin.
Non, elle n'a pas créé son mouvement. Elle était vraiment directrice de la société théosophique, mais elle a publié énormément d'ouvrages.
Alors, c'est Alice Bailey.
Alors, Alice Bailey, c'est l'école arcane. On peut aussi trouver sur Internet. C'est aux éditions Lucy Strauss, c'est l'école arcane, il y a 24 volumes. Il y en a, je crois, 19 du tibétain, il doit y en avoir 5 d'Alice Bailey proprement dit. Et après, il y a les ouvrages de l'Agni Yoga, c'est édité chez Agni Yoga, d'Elena Rorich, des petits livres, qui sont écrits d'une façon un peu plus, littéraire, poétique. C'est pas les traités comme les ouvrages d'Alice Bailey. Et il y a les ouvrages de Benjamin Creme, vous allez sur le site partageinternational.org, et aux éditions Partage Publications, vous avez la mission de Maitreya, la réapparition du Christ et des maîtres de sagesse. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Benjamin Creme, je ne suis plus maintenant membre de son groupe, mais j'ai beaucoup travaillé avec lui et avec les gens qui travaillent avec lui. Et alors, c'est très intéressant. Pour moi, Benjamin Creme est vraiment quelqu'un en contact avec un maître. Et en 2011, il a révélé oralement, donc j'étais présent, que Madame Blavatsky, alors on savait déjà par le biais de son maître qu'elle s'était réincarnée en fait dans un corps russe vers 1983. Et en 2011, il a révélé que Madame Blavatsky était devenue un maître de sagesse. Et je me souviens, à l'époque, il me disait déjà que he's training to be a master. Elle s'entraîne à être un maître. Donc elle s'entraînait déjà parce que...
Elle serait où maintenant ?
Elle serait à Saint-Pétersbourg. Enfin, parce que ce maître est dans un corps russe masculin. Oui. Il serait à Saint-Pétersbourg, inconnu du public. Et il travaillerait encore avec son maître, le maître Moria. Et le maître Moria, il faut savoir que c'est le chef de toutes les écoles ésotériques. Donc Madame Blavatsky assiste son propre maître, HPB, moi je l'appelle comme ça, mais ce maître, travaille pour régénérer toutes les écoles ésotériques, parce qu'il y a beaucoup de cristallisation dans les écoles ésotériques, il y a beaucoup de dogmatisme aussi, et beaucoup de compétition, beaucoup de désunion, et beaucoup de mirages, d'illusions. Et donc, les maîtres travaillent beaucoup à essayer, dans ce domaine-là, de purifier, d'assainir, de maintenir des bases saines et de faire en sorte que toutes ces écoles, moi je regrette que même les écoles, enfin je dis écoles, mais les groupes ésotériques comme ceux de la théosophie, de l'Agni Yoga, de l'école Arcade, des groupes qui travaillent avec Benjamin Creme ne coopèrent pas ensemble. Et c'est un des grands problèmes des groupes ésotériques. Et Madame Blavatsky, HPB,
HPB.
HPB,
Elena Petrovna Blavatsky.
Voilà, travaille pour essayer de régénérer ces écoles et de faire en sorte qu'il y ait une unité. Et donc, il faut savoir que la voie ésotérique est une des voies pour la réalisation spirituelle. Hein. Ce n'est pas la seule voie, mais il y aura beaucoup de gens qui, dans l'avenir, subiront un entraînement et les maîtres, lorsqu'ils reviendront. Enfin, ils sont déjà dans le monde, nous dit Benjamin Creme, mais lorsqu'ils seront ouvertement connus, il y aura des écoles dirigées par des disciples avancés, mais supervisées par les maîtres, pour que des gens empruntent. Alors, il y aura une voie vers les écoles ésotériques proprement dit, il y aura une voie religieuse, et une autre voie vers la maçonnerie. Et donc, chacun pourra trouver sur une des trois voies un entraînement, et des enseignements, un entraînement, une méthode de méditation, un service pour pouvoir... passer l'initiation, c'est un des grands buts, c'est pas le seul, mais un des grands buts du retour des maîtres. Donc, Madame Blavatsky, le maître qui fut Madame Blavatsky, HPB, a son rôle à jouer dans la régénération de ces écoles. Alors, on peut ne pas croire hein, ce que dit Benjamin Creme, moi je veux pas du tout faire forcément polémique là-dessus, parce que je connais bien Benjamin Creme, et pour moi, c'est quelqu'un d'ouvertement... en contact avec Madame Blavatsky, avec un maître, de la même manière que Madame Blavatsky n'avait pas de livres, pratiquement pas, avait accès à des sources d'informations vraiment fiables et qu'on peut maintenant vérifier, voir. Benjamin Creme, c'est incroyable, c'est un initié aussi très évolué.
On va être obligé de rendre l'antenne. Je rappelle que vous pouvez retrouver David Goulois sur un site www.sagesseancienne.com et dans les articles, vous allez chercher la réhabilitation d'HPB Elena Petrovna Blavatsky. Merci.
Alors,
David.
Je suis très content de pouvoir parler de Madame Blavatsky et merci Joël et merci à la radio.
Eh ben merci.
Merci à tous.
Voilà. Donc à retrouver sur sagesseancienne.com. Et où est-ce que j'arrive pas? Voilà. Et donc on se retrouve. On se retrouvera pas la semaine prochaine, mais je vous dis merci à David Goulois que je remercie.
Joël, merci
beaucoup. Merci.